France Inter, le 7-9.
Léa Salamé, il est 7h48. Votre invité ce matin est dramaturge, scénariste et écrivain, auteur de La plus précieuse des marchandises aux éditions du Seuil.
Bonjour à vous Jean-Claude Grimbert et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Vous êtes l'un des dramaturges les plus joués dans le monde, vous avez contribué à écrire les scénarios des films de Truffaut ou encore Costa-Gavras. Et là vous revenez avec un petit livre, un conte pour enfants, pour adultes, pour tout le monde en fait. La plus précieuse des marchandises, c'est l'histoire d'un juif, déporté, qui est dans le train qui l'emmène vers les camps de la mort. Il est avec sa femme et ses jumeaux. Sa femme n'a plus de lait pour nourrir les deux enfants. Là, l'homme aperçoit une vieille dame qui est là, qui traîne sur le quai. Et que décide-t-il de faire? Il va faire un geste désespéré.
Oui, il enveloppe l'un des jumeaux, sans choisir entre le garçon et la fille, dans son châle de prière qu'il a gardé dans sa poche.
Il ferme les yeux et il choisit l'un des deux.
Voilà. Et il le passe par la lucarne. Et cet enfant va tomber aux pieds de cette femme qui attend un cadeau, une marchandise, de ce train de marchandises qu'elle voit passer régulièrement.
Voilà, c'est une vieille bûcheronne qui n'a jamais eu d'enfant et qui donc voit cette marchandise débarquer, ce bébé débarquer et qui pense que c'est un cadeau de Dieu. Elle rentre chez elle, elle ramène cette marchandise, cette petite marchandise à la maison, mais le problème c'est qu'elle est mariée au pauvre bûcheron qui lui n'en veut pas de cette petite fille parce qu'il comprend très vite que ça, elle fait partie de la race maudite, de la race des sans-cœurs.
Voilà. Vous avez tout dit.
Non, j'ai pas tout dit. C'est vous qui allez raconter parce qu'il va la rejeter. Il va dire à sa femme, on n'en veut pas. On veut pas des sans-cœurs.
Voilà. Non seulement il veut pas d'enfant, mais encore moins un enfant qu'on a acheté du train que les sans-cœurs. La preuve que c'est des sans-cœurs, c'est qu'ils jettent leurs enfants par les lucarnes des trains.
Voilà. Et donc il va tout faire pour que sa femme jette cet enfant. La tue, et ben non, elle s'accroche. Et puis un jour, la pauvre bûcheronne va mettre la main du pauvre bûcheron sur le cœur de la petite fille qui pleurait. Et là, malgré toute sa haine contre les sans-cœurs, il peut pas s'empêcher de ressentir une immense douceur dans la paume de sa main.
Voilà, et de sentir un cœur qui bat.
Et là, il se dit qu'en fait, les sans-cœurs ont un cœur.
Voilà. Et c'est ce qu'il va affirmer à ses camarades de travail réquisitionnés par la force occupante. Les sans-cœurs ont un cœur.
Voilà, il va crier ça un soir, voilà. Ce sera son immense soulagement.
Il va se libérer.
Puisqu'il l'aime maintenant, voilà. c'est sa fille, il l'adore même.
C'est une histoire d'amour, c'est un don, et l'amour de cet enfant va les transformer tous les deux.
Voilà, c'est une histoire d'amour et c'est ça qui est magnifique dans ce conte et qui est particulièrement bouleversant. On s'arrête là, on laisse au lecteur le plaisir de découvrir si la petite fille sera sauvée ou pas, si elle retrouvera ses vrais parents qui sont donc dans les camps de la mort ou pas, ce qui adviendra de la pauvre bûcheronne et du pauvre bûcheron. Mais ce que vous avez essayé de dire dans ce livre-là, c'est que malgré l'horreur la plus totale, le tragique absolu, la tendresse est possible, la douceur aussi et l'amour aussi. Vous écrivez l'amour, c'est la seule chose qui mérite d'exister dans les histoires comme dans la vie vraie.
C'est ma conviction. En tout cas, c'était ma conviction quand j'ai écrit ce conte. Je l'ai écrit sans penser à tout ça. Voilà. C'est-à-dire que j'étais dans une... J'avais un cancer en même temps. Et je me suis demandé, sans doute, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner aux enfants que nous avons faits et qui sont en train de grandir le goût de vivre malgré tout. C'est-à-dire malgré tout ce qu'on leur raconte, malgré tout ce qu'ils voient, malgré tout ce dont ils sont témoins. Et je pense que, comme je vis en enfant de déporté, plus on vieillit, voilà, j'étais moins enfant de déporté quand j'avais 5 ans qu'aujourd'hui. Et je me sens beaucoup plus survivant aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans.
Oui, voilà. Parce que toute votre œuvre tourne autour de ce que vous avez vécu. Vous aviez 3 ans quand votre père et votre grand-père ont été déportés devant vous, ont été enlevés. Vous étiez rue Charlot à Paris dans le 10e arrondissement et ils sont venus. Et c'est la dernière fois que vous allez voir votre père et votre grand-père.
Oui, et quand nous avons été pris, ma mère, mon frère et moi, et relâchés immédiatement, je n'avais pas conscience que ma vie était en jeu. Alors que maintenant, et j'en parle avec mon frère, de plus en plus on se dit, mais merde, on était à deux doigts. Voilà. Et donc c'est une chose qui me permet pas d'écrire des bleuettes ou ce que j'aimerais écrire, des pièces de boulevard qui rapportent beaucoup d'argent.
Ça va, vos pièces sont peut-être plus tragiques que les pièces de boulevard, mais elles marchent très très bien. Bientôt, il y aura plus de témoins pour raconter cette histoire. Il restera quoi ?
Les survivants, voilà. Alors, c'est peut-être la question. Qu'est-ce qui va rester ? Voilà. De Louis XIV, il reste des tas de livres d'histoire, et puis il reste le petit Poucet, où on sait que les nobles ne payaient pas les bûcherons, et que les bûcherons devaient abandonner leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim. Et ça, c'est sous Louis XIV, à côté de Versailles. Voilà.
Et de la Shoah, il restera quoi ? C'est quoi le petit Poucet de la Shoah ?
Alors, je pense qu'il va rester des livres, qu'il va rester beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de... Je pense que il va rester quelque chose de terrible, c'est que ce qui a eu lieu autorise, c'est-à-dire n'interdit pas. On a cru un moment que ça interdisait. Or, ce qui a eu lieu autorise à que ça ait lieu pour nous ou d'autres de nouveau. Et c'est face à ça que les auteurs, que tous ceux qui pensent ou qui parlent aux autres ou tous ceux qui s'adressent à un public, on est obligé d'y penser.
Sans dévoiler la fin de l'histoire et de ce conte que je vous invite vraiment tous à acheter, ça se lit en moins d'une heure et c'est absolument bouleversant. Vous terminez à la fin par cet épilogue, Jean-Claude Grimbert. Bien sûr que rien n'est vrai dans cette histoire. Il n'y a pas eu de train de marchandises qui traversait les continents en guerre, ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration ou même d'extermination. Bien sûr que non. Ni de familles dispersées en fumée, ni de cheveux tondus, ni le feu, ni la cendre, ni les larmes. Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout cela n'est vrai, bien entendu.
C'est un conte.
Rien de cela n'a existé. Quand vous voyez que ces derniers temps, les quenelles reviennent avec leur lot d'injures antisémites, de propos négationnistes, ça n'a pas existé, ça n'a pas été vrai, c'est exagéré, c'est un détail de l'histoire. Qu'est-ce que vous diriez à un complotiste qui vous dirait ça ? Vous lui répondriez quoi, vous ?
Si j'étais costaud, je lui casserais la gueule. Non.
Vous n'êtes pas costaud, alors vous faites quoi ? Avec les mots.
Avec les mots, j'éviterai de lui parler. Voilà. Je pense qu'il faut s'adresser par l'écrit. Justement, essayer de trouver une sorte de... Comment dire ? De sérénité.
Mais vous n'essayerez pas de le convaincre qu'il se trompe, qu'il mélange tout, qu'il...
Comment convaincre ?
Il faut essayer, non ?
C'est-à-dire, il y a toujours eu des antisémites. En France... Toute la littérature française, à quelques exceptions près, a produit... On n'imagine pas ce qu'était l'antisémitisme à la fin du 19e et jusque dans les années 40 et 50 en France. Vous ouvriez un livre, n'importe quel auteur, Giraudoux, Anouilh, tous antisémites. Voilà. Et pourquoi cette poignée de moins d'1% de juifs vivaient en France comme aujourd'hui ? Voilà. Ça produit une littérature ignoble. Les Français adorent Céline, c'est-à-dire il n'y a qu'un auteur en France, avant celui qui vend énormément aujourd'hui, qui n'a sans doute rien à voir avec tout ça. Aujourd'hui, c'est Céline. Voilà. Donc
vous préférez ne pas leur parler ?
Non,
c'est
pas ça. Vous ne pouvez rien leur dire. Le drame, c'est que quand il y avait tous ces antisémites, on ne tuait pas les juifs. Et que maintenant, après ça, et c'est ça qui est ignoble, et c'est ça qui... Drummond, c'est pas Céline. Céline écrit « Quand on tue les Juifs ». Et aujourd'hui, après tout ça, il y a des types qui peuvent tenir les propos qu'ils tiennent.
Voilà. Bon, eh bien moi je lui aurais offert votre livre, voyez, Le Complotiste. Je pense que ce conte peut changer les choses. La plus précieuse des marchandises, c'est au seuil. Merci à vous Jean-Claude Grimbert, et je crois que Charline Van Necker l'a lu également.
Merci Léa.